L'émission qui va suivre est une rediffusion. Restez à l'écoute.
7 milliards de voisins. Avec Emmanuel Bastide pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins et de voisines. Aujourd'hui, la dispute dans le couple.
J'en ai plus qu'assez d'être l'homme invisible dans cette baraque. Je ne me plains jamais. Tout ce que je demande, c'est d'avoir
un... Tu ne te plains jamais? Ah, je t'en prie, excuse-moi. Non, mais c'est sûrement moi qui suis complètement dingue. On ne t'entend jamais, mais t'arrêtes pas de te plaindre. Tu râles du matin au soir, tu te plains jamais, toi. Ça, c'est la meilleure de l'année, j'en hurle de rire, je vais m'étouffer.
Il y a ces couples à l'amour feutré, et puis un jour tout passe, tout casse, sans même un orage. Et puis il y a ces couples qui s'aiment avec des assiettes qui volent, des injures, des cris, des larmes de réconciliation. Jean de La Fontaine écrivait « La dispute est d'un grand secours, sans elle on dormirait tout le temps ». Soit. Mais alors quelles sont les raisons des conflits conjugaux? Éducation des enfants, tâches ménagères, beaux-parents, infidélité? La discorde a-t-elle une dimension salvatrice, ne serait-ce que dans les effusions de la réconciliation, à moins que certaines petites phrases de vipère ne laissent un goût amer? Bref, faut-il renoncer à la dispute ou apprendre à bien se quereller? Les voisins et les voisines, c'est à vous de nous répondre. S'il y a de l'électricité dans l'air chez vous, allez appelez-nous tout de suite. 33 1 84 22 71 71, c'est aussi le numéro de téléphone WhatsApp pour nous laisser des messages audio et pour poser aussi vos questions à nos spécialistes du couple que je vous présente. On sera en ligne, est-ce qu'il est déjà en ligne avec nous? Jean-Jacques Mbassa, bonjour.
Bonjour Emmanuel.
Jean-Jacques Mbassa, vous êtes coach en développement personnel à Bamako, au Mali. Vous publiez un livre que je trouve très drôle, « Roméo et Juliette se disputent ». Vous nous direz quels sont les témoignages de couples que vous avez recueillis. Caroline Cruz également avec nous, bonjour.
Bonjour Emmanuel.
Conseillère conjugale et familiale, vous avez publié « Comment continuer à se parler, à s'aimer, à se désirer ». Fabienne Kramer également avec nous,
bonjour. Bonjour Emmanuel.
Psychanalyste, vous avez publié « 21 clés pour l'amour slow ». Voilà, je vous rappelle notre numéro de téléphone 33 1 84 22 71 71. La dispute dans le couple. Beaucoup, beaucoup de témoignages qui nous sont parvenus sur les réseaux sociaux. Diego, étudiant comorien à Dakar, nous dit « Moi, je suis mariée depuis moins d'un mois. La base de notre couple, c'est la dispute. Ma façon de faire après les disputes et la colère, c'est de passer une bonne nuit et puis au réveil, de demander pardon, même si c'est elle qui a tort. » Bon, voilà, c'est son mode d'emploi. Commentaire, Fabienne Kramer.
Oui, alors c'est vrai que c'est la base de la dispute, c'est d'imposer à l'autre l'idée que c'est l'autre qui a tort. Donc il est dans ce schéma-là. Et moi, j'avais tendance à dire que s'excuser le lendemain, c'est peut-être pas la solution non plus. C'est peut-être en amont.
Non, mais faudrait. Lui, surtout, il demande pardon, même si c'est pas lui qui a tort.
Oui,
donc
oui.
Il est d'une bonne volonté à toute épreuve. Jason, à Goma, en RDC. Je suis mariée, moi, depuis 20 ans. On se dispute souvent avec ma femme parce que chacun veut avoir raison. Eh bien, effectivement, vous le disiez, Fabienne Kramer. Kalilua, Bamako, Mali, la principale cause de dispute, ce sont les telenovelas. C'est scientifiquement prouvé. À Bakar, à Niamey, au Niger, un couple sans dispute, c'est comme une voiture sans essence stationnée en pleine circulation. Bon. Eladj, Dakar, également au Sénégal, un couple ne peut durer que s'il se dispute. C'est comme les dents et la langue, même si elles se disputent, elles sont obligées de cohabiter. En tout cas, ils ont le sens de la métaphore aujourd'hui, les voisins. Écoutez aussi le témoignage d'un voisin posté sur WhatsApp.
C'est monsieur qui est Batouré depuis Dakar sur RFI. Si l'homme ne parvenait pas à satisfaire sa femme au plan sexuel, là, la femme sera déçue. Et ces discussions sont souvent liées. Si l'homme ne parvenait pas à trouver un boulot pour satisfaire sa famille à leurs besoins de première nécessité, là, la femme peut se fâcher. Voilà, les disputes, le conflit s'agrandit. Voilà, les mots de gauche à droite. Tous ces détails sont des facteurs de conflit dans le couple. Merci les voisins et les voisines. Voilà ma contribution.
Allez, appelez-nous en direct maintenant. On attend vos appels. 33 1 84 22 71 71. La dispute dans le couple.
7 milliards de voisins, c'est maintenant.
Jean-Jacques Mbassa, vous avez entendu le témoignage, le dernier témoignage de Keba à Dakar. En gros, l'argent et puis le sexe. Est-ce que ce sont les principaux motifs de discorde dans le couple pour vous, Jean-Jacques Mbassa?
Bah oui, ce sont des motifs, mais pas toujours. On peut aussi citer d'autres motifs. On se dispute souvent aussi à cause des enfants, à cause des beaux-parents. Et en Afrique, où je suis, c'est très souvent c'est à cause des beaux-parents.
Ouais, la belle famille qui est très présente. Fabienne Kramer et Caroline Cruz, les motifs de discorde dans le couple, Fabienne Kramer.
Mais si je devais les résumer d'un mot, je dirais la frustration en général. Mmh. La dispute, c'est quand on a emmagasiné de la frustration sur un sujet ou un autre. Et les beaux-parents, ça génère énormément de frustration, mais le sexe aussi. Et c'est le moment où justement la parole est débordée et donc on monte le ton. Parce qu'il faut qu'on s'entende sur le thème de la dispute. Si c'est juste discuter, ce qui n'est pas la même chose, avec un ton égal, ça s'appelle pas une dispute. La dispute, c'est quand le ton commence à monter, quand les mots commencent à dépasser un peu ce qu'on voudrait dire. La dispute, moi je dirais que c'est la discussion où après on regrette certaines choses, c'est-à-dire qu'on se dit tout compte fait, je me suis pas comportée comme je voudrais.
Oui, mais je suis assez d'accord avec ça. Je trouve que c'est important de s'entendre sur le mot dispute, hein, parce que finalement à l'origine la dispute c'est un échange d'arguments, hein, étymologiquement.
Ah oui. Non, mais là on n'a pas dit le débat dans le couple. Ouais. On a dit la dispute.
Oui, la dispute. Hein. Oui, mais la dispute, c'était normalement. Il y a une émission sur France Culture d'Arnaud Laporte qui s'appelle La Dispute. Mmh. Et c'est un échange de points de vue, d'arguments. Dans ce sens-là, la dispute, c'est constructif. Mmh. Et on peut avoir des disputes où chacun peut exprimer son point de vue. Hein. Et là, on arrive à la querelle, hein, à ce sens de querelle où, finalement, comme vous le disiez, Fabienne, enfin, on en arrive à blesser l'autre sur des points de fragilité. Et c'est là que ça peut devenir dangereux et problématique pour le couple.
Alors, Fabienne Kramer citait un ensemble de frustrations, mais quand on parle, par exemple, d'un désaccord sur l'éducation des enfants, ça, c'est un motif qui revient souvent. Ça n'évoque pas la frustration, à proprement parler. Caroline Cruz, est-ce que pour vous, c'est un motif de discorde qui revient régulièrement?
Oui, effectivement, il y a pas mal de motifs de discorde qui reviennent, comme l'éducation des enfants, qui peuvent venir aussi des héritages culturels, hein, des héritages familiaux, dont on n'a peut-être pas suffisamment parlé avant pour s'entendre et négocier. Parce que finalement, éviter la dispute dans le couple, c'est savoir pratiquer le compromis, la négociation. Bon, maintenant, les querelles concernant tous les problèmes qu'on a évoqués, ça peut masquer aussi autre chose. Hein. C'est-à-dire que se disputer à propos de l'argent, c'est se disputer aussi à propos de qui a le pouvoir. On le voyait bien dans une des interventions que vous avez citées. Hein. L'homme qui ne satisfait pas sa femme, enfin, la femme va être déçue. Qui a le pouvoir? Qui remplit ses obligations? Très souvent, les querelles, les thèmes des querelles recouvrent autre chose.
Je suis tout à fait d'accord avec vous. En fait, bien sûr, on se dispute pour les enfants, mais le sujet, à mon avis, remonte bien en amont. Voilà. Le début de l'exaspération, le début de la colère est monté bien en amont. Et souvent, on peut parler des enfants là où on ne peut pas parler, justement, de la sexualité.
Absolument.
C'est plus difficile. Et la frustration vient d'ailleurs. Ce qu'on appelle la dispute dans le couple, c'est ce qu'on appelle la scène de ménage.
Ouais.
Et quand vous réfléchissez à la scène de ménage, moi je dis toujours, c'est la seule scène qu'on n'a jamais appris à réciter et qu'on connaît tous par cœur. C'est quelque chose qui est presque inné, la scène de ménage. Et elle repose en effet sur toute cette base de frustration. Et alors en tant que psychanalyste, je dirais avant tout sur de la frustration sexuelle.
Jean-Jacques Mbassa, qui joue le rôle de la machine à reproche, dans les couples qui viennent vous consulter? Est-ce que c'est l'homme ou la femme qui joue la machine à reproche?
Dans les couples que nous rencontrons, la plupart des personnes qui se plaignent, ce sont du coup les femmes. Elles ont plus à cœur que du bonheur du couple, parce que les hommes ne sont pas assez courageux. Mais ce sont toujours les femmes qui prennent le devant, et ce sont elles qui se plaignent. On remarque chaque fois qu'il y a un discorde et que ça aboutit à un divorce, par exemple, la majorité des personnes qui demandent le divorce, ce sont les femmes.
Ouais. Et le fait que, alors vous, Jean-Jacques Mbassa, bon, vous aidez des couples à Bamako, au Mali, on a des femmes qui travaillent, qui sont devenues plus exigeantes aussi. Est-ce que c'est, du coup, c'est aussi un facteur déclenchant du conflit, de la dispute?
Oui, parce qu'on remarque que le taux de divorce, il augmente dans des villes comme Dakar, Bamako. Mais tout cela, c'est parce que les femmes sont de plus en plus autonomes, et à cause de l'évolution des mœurs, elles ne veulent plus être cantonnées au rôle préhistorique dans lequel on les a enfermées depuis longtemps. Alors, elles essaient de plus en plus d'être ambitieuses, de prendre la parole. Et voilà pourquoi les femmes, aujourd'hui, quand ça ne va pas, quand elles ne peuvent pas s'exprimer parce qu'elles n'ont pas le mot à dire traditionnellement. À un moment donné, vu qu'elles ne s'expriment pas, il n'y a pas de liberté, s'il n'y a pas de liberté, il n'y a pas de communication. Étant donné que la dispute, c'est une forme de communication, on ne peut pas communiquer. Donc, à un moment donné, ça va péter.
Oui. Alors, Jean-Jacques Mbassa, vous citez d'ailleurs une étude dans votre livre, une étude qui a été réalisée en France par le cabinet Technologia il y a quelques années, qui avait calculé que la vie de couple n'occupe que 17% du temps et la vie sociale 3%. Donc c'est à se demander, là je m'adresse à vous qui êtes en France, Fabienne Kramer et Caroline Creuse, comment est-ce qu'on a le temps de se disputer finalement si le travail est devenu omniprésent? Moins on se voit, moins on se dispute, non?
Non, peut-être que la frustration vient du fait que moins on se voit, plus on se dispute, parce que justement, on n'a pas le temps de dialoguer, on n'a pas le temps. La dispute, c'est une sorte de dialogue en accéléré. Et tout à l'heure, vous exposiez les reproches. Je pense que c'est aussi la rencontre de deux modes de communication différents. Alors, je parle des couples hétérosexuels. Ce serait intéressant de se demander si les couples homosexuels se disputent moins. Et je suis à peu près persuadée qu'ils se disputent moins.
Mais, pourquoi, d'ailleurs?
Parce qu'ils communiquent sur le même type de langage. Alors, je sais bien qu'on n'aime pas trop les choses genrées aujourd'hui, mais quand même, les femmes, quand elles choisissent un homme, elles le mettent sur un piédestal et elles ont l'espoir que cet homme-là, ils remplissent un peu tout dans leur vie, là où les hommes se feraient bien une petite collection de femmes pour trouver la femme idéale. Et donc, quand le mode de communication, du coup, est complètement différent. C'est-à-dire que la femme passe après son temps à reprocher à l'homme de ne pas être son idéal de base, et l'homme, au contraire, lui, gère ses frustrations un peu au quotidien. Donc, du coup, c'est la difficulté dans le couple, c'est de se parler le même langage.
Et vous êtes d'accord avec ce qu'on pourrait appeler, pour certains, des stéréotypes ou pas, d'ailleurs
Enfin, non, je ne parlerai pas de stéréotypes, c'est sûrement en partie vrai, mais je ne suis pas complètement d'accord. Moi, j'ai l'impression que les femmes se plaignent, et enfin dans ma clinique en tout cas, déjà dans les couples homosexuels, ils se disputent largement autant que les couples hétérosexuels, mais j'ai l'impression que l'homme plutôt dit qu'on va arriver à se débrouiller. On n'a pas besoin... tout ça, c'est des histoires de... On peut se débrouiller tout seul. On n'a pas besoin de demander... Ils viennent, en général, aux consultations de manière entraînant des pieds. Enfin, de manière très réticente. Ouais. Et d'ailleurs, ce qui est amusant, c'est qu'après, ils sont très contents. Ils sont les premiers à en redemander. Mais au départ, c'est... la femme se plaint. C'est-à-dire qu'elle exprime... C'est elle qui exprime ce qui ne va pas. L'homme a tendance à dire... ou le partenaire...
Alors, on connaît tous des couples presque parfaits. Caroline Creuse, Fabienne Kramer, Jean-Jacques Mbassa. Des couples presque parfaits où c'est très silencieux, tout se passe bien. Puis d'ailleurs, un jour, on peut apprendre d'ailleurs que ce couple-là divorce. Comment ça marche, les couples qui ne se disputent pas?
Moi, je pense que la dispute, ce n'est pas un passage obligatoire pour le couple. Il y a des tas de couples qui ne se disputent pas parce qu'ils ont décidé que le ton et la forme de la façon qu'ils avaient de communiquer était presque plus importante que le fond. Alors, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas d'accord, qu'on est tout le temps d'accord. Il y a des fois où on n'est pas d'accord, mais au moins, on l'exprime différemment. Et je pense que ça touche la notion du respect, c'est-à-dire que la dispute, c'est aussi accepter de s'exprimer d'une certaine façon et de manquer de respect à l'autre. Il faut quand même, quand on parle d'un sujet comme ça, Caroline, rappeler par exemple que rien qu'en janvier, en France, il y a 16 femmes qui sont mortes sous les coups de leur conjoint. Mmh. C'est-à-dire que la dispute, c'est quand même le début et l'ouverture à certaines formes de violence. Alors, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais...
Qui, Dieu merci, reste ultra minoritaire par rapport à la somme des disputes en général, du quotidien dans un couple.
200 000 femmes.
Voilà. Non, mais je veux dire que bon, par rapport à la dispute du couple, qui est un phénomène normal et de la vie quotidienne.
Oui, mais on parle à son conjoint comme on ne parlerait
Et comme vous le dites, les violences conjugales commencent toujours par des disputes. On est bien d'accord et vous avez bien raison de le souligner. À propos de ces couples presque parfaits, Jean-Jacques Mbassa, vous racontez dans votre livre des histoires de couples assez incroyables que vous avez rencontrées, mais comme ce couple qui ne se disputait absolument jamais. Alors on entend chez eux, je crois que c'était des voisins à vous, on entend chez eux des éclats de rire, le mari qui sifflote quand il rentre du travail, enfin bref, c'est un couple absolument extraordinaire, et vous découvrez un jour en fait que la réalité est totalement différente.
Oui. Parce que, comme je le disais, il peut y avoir quelque chose d'hypocrite dans un couple parfait. Comme on le dit, le couple parfait, il n'existe pas. Il n'existe que dans le moment. Voilà pourquoi le titre, d'ailleurs, il porte le titre « Meilleur geste ». Je peux vous dire qu'en réalité, il n'y a pas de couple parfait. le couple qui ne se dispute pas, soit c'est parce qu'ils sont dans une situation qui les convient, une situation d'hypocrisie qui les convient, et chacun essaye de garder quelque chose de pas correct qu'il a en lui, et que ça, c'est un peu un entendement qui n'a pas de nom.
Hypocrisie ou arrangement, hein, finalement, c'est ce qu'on pourrait qualifier sur ce... Je faisais allusion à cette histoire de couple qui s'entend très bien. En fait, vous découvrez que le mari collectionne les maîtresses et qu'il s'aperçoit que sa femme a elle aussi un amant, mais que ça ne le dérange pas du tout et qu'il y a une cohabitation qui est finalement très bien rodée, mais rodée sur le non-dit. Les voisins, les voisines, si les discussions s'échauffent assez vite chez vous, appelez-nous, je vais vous redonner le numéro de téléphone, mais peut-être appelez-nous une fois que l'orage est passé, hein, bien sûr, pour dialoguer avec nos invités et poser aussi des questions à nos invités. 33 1 84 22 71 71.
7 milliards de voisins
et la planète sépare.
Pierre est en ligne au Burundi. Bonjour Pierre.
Oui, bonjour.
Vous êtes en couple depuis un an, mais alors vous ne vivez pas en couple en fait. Hein. Vous voulez parler des disputes avec votre petite amie, c'est bien ça Pierre?
Oui, d'ailleurs, je voulais vous raconter ce qui m'est arrivé un jour avec ma petite amie. Moi, j'ai une petite amie, mais il y a des fois où nous ne sommes pas d'accord sur certains points dans la vie quotidienne. Un jour, je lui ai proposé de nous rendre au chevet de quelqu'un. Et d'ailleurs, c'était mon oncle maternel qui était hospitalisé. Mais ma petite amie a carrément refusé. Je lui ai demandé où était le problème si nous gérons ensemble. Mais elle n'a rien répondu. Elle est restée muette comme une tombe. J'ai été pris par la colère. Et je lui ai dit, si elle recommence, je vais couper les ponts entre elle et moi.
Oui. Vous avez eu l'impression que votre petite amie n'était pas une bonne personne humainement parce qu'elle refusait de se rendre au chevet de votre oncle hospitalisé. Mais peut-être qu'elle a un mauvais souvenir avec une personne proche dans sa famille qui a été hospitalisée. Non, est-ce qu'elle a refusé de vous donner la moindre explication?
Elle a refusé de me donner la moindre explication. Et là, c'était un certain vendredi, je crois. Après avoir lui dit tout cela, elle a passé 4 jours sans me parler, ni même répondre à mes messages.
Ah oui, carrément.
Jusqu'au mardi soir. Donc, 4 jours, jusqu'au mardi soir.
Vous ne comprenez pas son attitude, Pierre, dans le fond?
Moi, je ne comprends pas. Jusqu'à maintenant, je ne comprends pas son attitude.
Oui, c'est un vrai... En fait, ce n'est même pas une dispute que vous avez eue, hein, finalement,
c'est ce que
vous décrivez.
C'est une sorte de brouille.
Une sorte de brouille dont on n'a pas la clé, là, hein, pour comprendre.
Oui, parce qu'elle a des difficultés à exprimer ses raisons, donc on n'est pas dans la dispute. Mais c'est intéressant parce que c'est une histoire, Nixon, ce qu'il nous raconte, c'est un échange de deux menaces de rupture. C'est-à-dire que vous lui avez dit immédiatement que ce n'était pas possible si jamais elle n'y allait pas. Et elle a trouvé comme système de ne pas répondre, c'est-à-dire de jouer un peu le silence et la rupture. Donc, chez eux, ça va vite au clash, quoi.
Oui.
C'est-à-dire qu'ils n'ont même pas commencé à se disputer, ils sont déjà au clash. Donc, va falloir trouver des systèmes pour se parler.
Pour se parler, pour dialoguer.
Oui.
Merci, Pierre, de nous avoir appelés. Alors, je vais lire le message de Nixon, parce qu'on n'arrive pas à le joindre au téléphone. Il est à Lubumbashi, donc marié depuis 15 ans. Et il nous dit ceci: les motifs de dispute dans mon couple sont les enfants et surtout la manière dont il faut discipliner les enfants. Ici, c'est souvent le mari qui décide. Une autre source de conflit, ce sont mes amitiés féminines. Alors là, pas très bien compris ce que veut dire amitié féminine. Je travaille dans une entreprise mixte et ma femme veut me donner une ligne de conduite. Parfois, je peux la retrouver contrariée alors que j'étais au travail, qu'elle connaît mon emploi du temps. Les discussions animées sont bénéfiques dans notre cas. Bon, comme quoi, parce que c'est vrai que l'infidélité potentielle, le soupçon, c'est quelque chose qui rôde dans toute dispute, non, également?
Oui, c'est les phénomènes de domination et de soumission. Il le dit, l'éducation des enfants, c'est à moi de gérer ça. Donc, elle fait avec ce qu'elle a, c'est-à-dire une sorte de conduite. Ah, ben alors, puisque tu dois t'occuper des enfants et gérer sur la famille, alors tu dois avoir la conduite appropriée par rapport à ça. Et c'est souvent le thème des disputes.
Oui, enfin, ce qui est intéressant là, c'est que finalement, la conclusion, c'est que les disputes sont bénéfiques. Ce qui n'est quand même pas toujours le cas ce qui n'est pas toujours le cas dans des scènes ou dans des disputes autour, qui ont pour moteur la jalousie. Parce que là, ça peut devenir, et je pense que c'est quelque chose dont il faudra qu'on parle, la dispute violente peut être une passion toxique. Hein, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose d'un emportement, on est hors de soi, on est emporté, et une fois que la frontière est franchie, la violence de la dispute est quelque chose de terrible. Mais c'est comme la jalousie, ça devient une forme d'addiction, hein, d'addiction à la violence.
Mais on avait ce premier message au début de l'émission, Diego, hein, qui venait juste d'être marié depuis moins d'un mois et qui disait que la dispute, c'était la base de son couple, quand même.
Et je crois qu'ils évoquent la réconciliation sexuelle. Et justement, ces couples qui fonctionnent comme ça, qui ont besoin de s'échauffer, entre guillemets, par la dispute pour arriver à la relation sexuelle, sont des couples quand même qui souffrent énormément.
Oui, c'est très coûteux d'en passer par là. Oui. Pour arriver à une satisfaction sexuelle, c'est coûteux d'en passer par de la violence.
Alors, vous nous appelez bien sûr les voisins et les voisines au 33 1 84 22 71 71.
Ça commence toujours par des petits détails. Et ta façon de rire. Quand je te vois manger. Quand je te regarde. J'ai envie de te foutre ma main sur la figure.
Essaie de me comprendre.
Je crois, tu ne m'as plus. Tiens, là, tu mériterais ce divorce.
Il n'en est pas question.
Et j'admire le culot que tu as de me traiter avec autant de mépris le jour même où tu perds ton job.
J'ai trouvé du
boulot. Non, n'y réfléchis pas deux fois pour te demander qui va payer le crédit, puisque Caroline s'occupe de tout.
C'est moi qui ai trouvé la maison et c'est moi qui l'ai entièrement
meublé. Avec mon argent à moi. L'argent, c'est facile de le dépenser quand on ne l'a pas gagné, mon lapin.
Si j'avais pas été là, tu l'aurais jamais gagné, mon canard.
Bonjour à tous, voisins et voisines. Alors, je suis Jean-Tis Stanley. J'habite à Port-au-Prince. J'aimerais savoir si vous avez un conjoint ou un partenaire qui a l'habitude de se fâcher pour des petites choses et même parfois de faire un étalage de discussion. Est-ce que cette relation, est-ce qu'il y a de l'avenir?
Bonjour les voisins. Je suis M. Nathan Kalingaï, j'appelle à partir du Congo, Kinshasa. Je suis marié depuis 9 ans maintenant. Je voudrais savoir, est-ce que les petits conflits intermittents qui surgissent au sein d'un couple presque parfait peuvent-ils aider ce dernier à continuer de se construire ou ça peut détruire le couple? Merci à tous les voisins.
Alors, Jean-Pierre Mbassa, vous êtes toujours en ligne avec nous, coach en développement personnel à Bamako. Vous avez entendu la question de Nathan à Kinshasa. Est-ce que la dispute dans un couple presque parfait, comme le qualifie Nathan, est-ce que ça peut devenir quelque chose d'insidieux, comme un poison finalement qui s'infiltre dans la vie du couple?
Oui, Emmanuel, c'est pour cela qu'il est important de savoir gérer la dispute. Donc, comme le dit Jeanne Annie, la dispute, c'est tout un art, la dispute conjugale, un art très ancien et très respectable. Il faut tout simplement apprendre à la gérer et ensuite apprendre à gérer l'après-dispute.
Oui.
Donc, il ne s'agit pas de tomber dans l'excès, il s'agit de modération. Mais la dispute, je vais sur le principe que la dispute, c'est en mode communication, mais le mode communication le plus naturel qui soit. Parce qu'il sort de tout les cadres de mode de communication conventionnelle qu'on connaît. Et il sort naturellement de façon brute et on dit exactement ce qu'on a sur le cœur. Mais bien entendu, il faut éviter de tomber dans les excès, la modération et des rigueurs.
Il faudrait apprendre donc à se réfréner. Alors, on va en parler de comment dialoguer ou comment se disputer pour qu'il n'y ait pas de paroles regrettables. Mais je voudrais qu'on revienne aussi à la question de Stanley en Haïti, hein, qui dit, bon, en gros, des disputes avec sa petite amie pour des broutilles, mais elle fait étalage de ces disputes. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui laisse des traces, qui peut être toxique pour le couple, Fabienne Kramer?
Oui, je pense que ce que j'ai senti dans sa façon d'exposer sa question, c'est qu'ils étaient décalés. Mmh. C'est-à-dire qu'elle avait l'air d'avoir envie de dispute pour peu de choses, alors que lui voudrait quelque chose de plus apaisé. Quand on blesse l'autre, on s'attaque au cœur dur de l'amour et de la relation. Donc, à force de blesser, au bout d'un moment, il n'y a plus de réserve d'amour. Donc, l'idée, c'est de trouver le moyen de discuter, pas obligatoirement de disputer. Je ne pense pas que ça soit nécessaire de lever le ton, mais en mettant toujours l'amour, l'intelligence, la bienveillance, le respect qui sont les bases de la relation qu'on a créée. Parce qu'après tout, la personne avec qui vous disputez, c'est quand même celle que vous dites aimer.
Mais en même temps, Caroline Cruz, la confrontation, l'opposition, la querelle, ça peut mener à une forme de sincérité qui fait avancer le couple, qui fait réfléchir, qui permet à chacun de se remettre en cause.
Enfin, moi, ce qui me semble surtout important, quand on parle de se disputer pour des broutilles ou des petites choses, on en a parlé tout à l'heure, mais c'est une manière d'exprimer que quelque chose ne va pas. C'est même d'ailleurs intéressant dans notre clinique, les gens qu'on reçoit. Je recevais hier un couple qui se disputait à propos de mettre des vêtements dans des sacs poubelles, en plus, pour les donner. Quand il s'agit de choses importantes sur la relation, là, ils font attention, ils sont prudents, ils ne se disputent pas, ils font attention à ne pas blesser l'autre. Mais sur des petites choses d'intendance, la vaisselle, la salle de bain, tout ce qui fait le détail de la vie quotidienne, là, il y a de la dispute qui commence parce qu'il y a un conflit latent, il y a un dérèglement latent dans le couple. Et c'est de ça dont ils doivent peut-être essayer de parler. Et s'ils n'arrivent pas à en parler, bon, je vais prêcher pour notre métier, mais, ou pour celui de Jean-Jacques, il faut peut-être aller voir quelqu'un qui les aide à parler de ce dont ils n'arrivent pas à parler, ouais. Et ils se disputent parce qu'ils n'arrivent pas à parler de ça.
Et d'ailleurs, vous ne croyez pas si bien dire, je vais vous lire un message qu'on vient de recevoir de Jean-Denis qui est en région parisienne, Champigny-sur-Marne. Il dit « Dans mon couple, il n'y avait pas de disputes, sauf vers la fin quand j'ai découvert l'adultère. J'étais très amoureux. Ma femme me dénigrait. Aurait-il fallu se disputer ?»
Parler en tout cas.
Oui, parler.
Parce que c'est pareil, il y avait certainement un dysfonctionnement qui s'était mis en place depuis longtemps, voilà. Et qui n'était pas vu. Parce que tout à l'heure, on disait que les couples qui ne se disputent pas peuvent être en effet dans une sorte de silence hypocrite. Mais ce n'est pas uniquement ça. C'est aussi des couples qui ont peut-être eu un accès au dialogue. Moi, j'ai tendance à dire qu'il ne faut jamais reporter le moment où on a quelque chose à dire, sauf si on est justement énervé. C'est-à-dire,
voilà,
si
exactement.
On n'a pas le contrôle de ses émotions, il vaut mieux reporter un peu les choses. En revanche, il faut essayer au coup par coup.
Oui.
Bien souvent, vous savez, dans le couple, on n'a pas envie de dire les choses parce qu'on dit « Oh, je vais gâcher la soirée, ça va plomber le moment, je lui dirai à un autre moment. » Non, je crois qu'il faut traiter les sujets les uns après les autres et à l'instant quand
traiter
il arrive.
Traiter les sujets, comme vous dites, mais en disant son ressenti avant tout.
Alors, c'est toujours le problème. Il faut essayer de ne pas généraliser, de ne pas accuser l'autre. Je donne toujours le même exemple parce que c'est un exemple qui me concerne. C'est les portes de placard. Il y a deux façons de dire à son conjoint qu'il a du mal à fermer les tiroirs
c'est
ou les
ça,
portes de
ça,
placard.
Ça, c'est souvent, c'est le tube de dentifrice. Ça,
voilà. Mais... Vous, c'est le tube de dentifrice. Moi, ce serait plutôt les tiroirs. C'est de dire, tu ne fermes jamais les tiroirs, ce qui est une accusation avec une généralisation, ou est-ce que tu peux fermer le tiroir?
Oui,
alors, c'est différent.
J'ai connu un couple comme ça qui disait, l'épouse disait, maintenant c'est 1 € si tu oublies de baisser la lunette des toilettes.
Oui, mais là,
on serait riche. Hein.
Ça, ouais. Est-ce que là, c'est pas le début du poison, tout ça?
Ah oui, bien sûr.
Parce que l'autre solution, j'ai fini sur mon histoire de placard parce que je voudrais pas qu'on. C'est de dire, je m'en fous des portes de placard. Voilà. C'est comme ça. L'autre, c'est un autre. Parce que c'est ça, le couple aussi. C'est l'école de l'altérité. Il ne s'agit pas de trouver quelqu'un qui soit votre copie conforme et qui fasse exactement les mêmes choses au même moment.
Le psychologue américain spécialiste du couple, John Gottman, il dit « Un des secrets des couples heureux, c'est d'accepter le rêve de l'autre. » Alors, le rêve de l'autre n'est pas forcément de laisser toutes les portes ouvertes ou les tubes de dentifrice non rebouchés, mais est-ce qu'il y a quelque chose de l'acceptabilité
C'est accepter que l'autre est un autre et que même si vous choisissez quelqu'un qui vous ressemble énormément, un matin, vous êtes à côté d'un étranger, parce que l'autre est un étranger.
J'en ai marre des mots, jamais plus d'une, je ne parlerai. J'en ai marre des mots, oh, jamais plus d'une, je ne parlerai. J'en ai marre des mots, jamais plus d'une, je ne parlerai. J'en ai marre des mots, et même si j'ai trop bu. Si tu chantes d'eau, raconte ça, raconte si hey. J'en ai marre des mots, jamais plus d'une, je ne parlerai. J'en ai marre des mots, jamais plus d'une, je ne parlerai. chaque phrase est caparée. Le sourire, c'est le péché. On phase et discute.
Retour au standard, on retourne au standard parce qu'on a pas mal d'auditeurs qui veulent s'exprimer et puis aussi des messages postés sur WhatsApp. Un voisin au Gabon, Ahmed.
Quand on se marie, on fait les choses maintenant ensemble. Il faut toujours impliquer sa femme dans la vie parce qu'on se marie, c'est pour que quand on prend une décision, on prend les décisions ensemble. Ce qui concerne l'argent, ce qui concerne l'avenir des enfants, l'avenir du couple, tout doit être débattu. C'est très important.
7 milliards de voisins. Parce que nous sommes tous des voisins.
Voilà, ça c'est un voisin qui ne se dispute pas, qui débat. Bon, ben formidable. Hein. Un auditeur nous appelle au 33 1 84 22 71 71. Et bien sûr, vous continuez de nous appeler. Patrick est à Pointe-Noire. Bonjour Patrick.
Bonjour Emmanuel.
Patrick, vous êtes en couple depuis 2 ans avec une femme qui, elle, a déjà un enfant de son côté. Oui. Ça se passe mal, hein, vos disputes, j'ai l'impression.
Oui, très mal. Dans le sens où c'est des choses qui me clashent et qui fait mal. Très mal, très mal au cœur.
Mais sur quel donc, type sur quoi ça part au départ?
Ben, c'est des incompréhensions qui naissent et il y a des périodes de calme. On ne discute pas pendant un certain temps. Et le jour qu'on décide de discuter, c'est par là que partent les clashs. Mmh.
Sur des sujets importants, Patrick?
Oui, des sujets importants sur comment on doit se tenir, sur de notre avenir, sur plein de choses.
Et là, il y a des paroles qui vous blessent profondément, que votre femme dit?
Oui, des paroles qui me blessent. Mais je ne sais pas si elle fait sciemment, si ce sont des paroles de colère ou bien... Mais ça m'affecte énormément de fois.
Au point que vous perdiez confiance en vous en tant que conjoint dans votre vie de couple?
Il m'est arrivé de lui dire, il me semble qu'on n'est pas fait pour être ensemble. Donc, après, il n'a pas réagi. Jusque-là, c'est des périodes qui passent. Et voilà.
Alors, vous posez une vraie question finalement, Patrick. Hein, c'est comment ne pas laisser échapper des propos que l'on va forcément regretter? Enfin, quoique là, je ne sais pas si... votre femme regrette, parce que est-ce que parfois elle s'excuse, elle dit « mais non, mais mes mots ont dépassé ma pensée » ou elle ne revient pas en arrière?
Peu de fois.
Peu de fois.
Mmh. Peu de fois.
Et vous attendriez qu'elle s'excuse, qu'elle vous demande pardon?
Effectivement. Et après, j'avais envie de savoir si, dans ce genre de cas, est-ce qu'il y a un moyen pour se préparer pour les jeunes couples que nous sommes? On arrive, et sans expérience parfois pour certains.
Oui.
Et tomber dans des couples qui se mettent à faire de clash de suite tout au long de la journée ou tout au long de la semaine. Comment on doit se préparer face à cela? Est-ce qu'il y a quelque chose ou des manières, des bouquins à lire?
Patrick, vous avez 32 ans, hein, je précise, et vous êtes à Pointe-Noire. Comment on évite, parce qu'on le sent venir, le clash, comme dit Patrick, forcément.
Ben, c'est surtout
comment
qui,
on fait
je crois
pour
que...
empêcher que ça dégénère?
Vu ce que raconte Patrick, je crois qu'il ne peut pas l'éviter. C'est ça surtout, il a l'impression que... Et parce que le clash aussi, c'est une sorte de modalité familiale. Si on est issu d'une famille où les parents se disputaient énormément, on a appris aussi à parler sur ce ton-là. Et c'est peut-être la rencontre chez ce couple-là de deux personnes qui n'ont pas du tout le même mode d'expression de la frustration. Donc lui, il se sent accablé par ses reproches et il semble être vraiment en souffrance. C'est là, dans ces moments-là, qu'on peut se faire aider parce que trouver une recette miracle dans un livre ou ailleurs pour sortir de ce phénomène-là, ça va être difficile, je pense, parce que je crois que c'est vraiment un couple qui n'a pas du tout le même mode de fonctionnement. Si on doit trouver une solution, moi je trouve que la seule solution, c'est de ne pas participer à la dispute. Ça veut dire de dire simplement... on en reparlera quand tout le monde sera calme. Et donc, de partir. de sortir, d'aller se balader, etc. Mais ça, c'est valable, sauf si on tombe sur quelqu'un qui va vous harceler, entre guillemets, et qui n'arrêtera pas.
Parce que là, ce qu'on entend aussi dans le témoignage de Patrick, c'est ça ?
Oui, c'est Patrick.
C'est que là, la dispute, les disputes récurrentes, ou les scènes récurrentes que sa femme lui fait, c'est une prise de pouvoir. Enfin, c'est, bon, on le sent d'ailleurs déprimé, on le sent impuissant, on le sent mis en position basse, avec une femme qui se sert, voilà, et un peu maltraitée, oui, et qui se sert de la dispute pour affirmer un pouvoir. Et là, c'est se faire aider me paraît, peut-être lui d'ailleurs, seul, paraît être une bonne chose pour qu'il récupère un peu de confiance en lui.
Oui, je pense que ça, c'est important de dire qu'on n'a pas besoin de voir le couple pour aider les gens.
Absolument.
Parce qu'après tout, le dysfonctionnement, il n'est pas uniquement au niveau du couple, il est individuel. C'est comment se gérer soi, parce que s'il n'y a pas de solution, bah, c'est-à-dire
que... Oui, et quand il y a prise de pouvoir et emprise, on ouvre aussi la porte d'une certaine manière. Donc, il faut que lui essaye de comprendre en quoi, pourquoi, comment il se fait que finalement il se retrouve dans cette position basse.
Qu'il l'autorise.
Qu'il a autorisé, absolument.
Jean-Jacques Mbassa, vous êtes toujours en ligne avec nous. Vous êtes coach en développement personnel à Bamako, au Mali. Est-ce que dans le cas de Patrick, alors Fabienne Kramer disait, ou je ne sais plus si c'est vous, Caroline, vous disiez, mais non, c'est vous, Fabienne, hein, il faut partir dans ces cas-là. Il faut empêcher la dispute, il faut s'en aller. Jean-Jacques Mbassa, vous avez plutôt tendance à dire dans votre bouquin que il ne faut pas claquer la porte quand il y a une dispute.
Oui, mais faut pas claquer la porte. L'autre risque de considérer ça comme de la fuite.
Ah.
Et lorsque vous reviendrez étant tout calmé, vous trouverez à la maison qu'elle bout comme une couple de minutes et ça va partir de plus belle. Je me souviens de l'histoire de ce couple qui chaque fois que le monsieur revenait après être allé faire un tour pour se calmer, dès qu'il fâchait la porte, à lui demander « Alors tu es allé voir l'autre ?»
Ah oui.
Ouais. Moi, je pense que
c'est-à-dire que la colère était montée à cause de l'absence, en fait, hein, chez sa femme.
Voilà. Je me suis peut-être mal exprimé. Voilà. Ce que je veux dire par là, c'est une décision qui se prend au calme, c'est-à-dire d'informer l'autre que désormais, dans les disputes, on pense que pour en parler calmement, on ne participera pas à la dispute. Vous savez,
non, mais c'est une vraie question.
Je disais ça à une de mes patientes un jour, et elle m'a répondu une phrase que j'ai trouvée extraordinaire. Elle m'a dit, mais alors comme ça, il ne saura jamais que j'ai raison. Donc en fait, c'est tellement important qu'il y ait un point final à cette dispute en disant, on a compté les points, qui a raison, qui a tort, mais jamais personne n'admet que l'autre avait tort.
Alors justement, on en arrive quand même au dénouement, puisqu'on arrive aussi bientôt à la fin de l'émission, c'est la réconciliation, l'art de se réconcilier après une dispute. Vous nous appelez bien sûr les voisins au 33 1 84 22 71 71.
7 milliards de voisins.
RFI, on est ensemble.
7 milliards de voisins.
Pense à 8 milliards, tu vas dire quoi?
J'ai refait le monde avec 7 milliards de voisins.
Un voisin de 27 ans nous raconte sa petite vie de couple, de dispute et de réconciliation.
Bonjour, je suis Alfred Rony depuis Libreville. J'ai jamais compris cette affaire de discussion avec les femmes. Parce que déjà, à chaque fois que je me suis discuté avec ma petite amie, déjà, c'est moi qui ai toujours tort. D'accord ? Les femmes ont rarement tort, alors là, très rarement. Et même quand elles ont tort, on doit s'excuser parce qu'elles ont eu tort. Parce que c'est de notre faute si elles ont eu tort. Donc ça, j'ai jamais compris. Et souvent, encore le plus étrange, c'est qu'on a eu des disputes. C'est-à-dire, elle se met à bouder et tout. Je me dis, mais c'est quoi le problème? Pourquoi tu boudes? Pourtant, j'ai rien fait cette fois-ci. Elle me dit, oui, justement parce que tu n'as rien fait. Et tu fais rien depuis là. J'ai envie que tu me chuchotes. J'ai envie que tu me cajoles. Mais tu fais rien. Et en fait, j'ai un véritable problème avec les caprices des femmes. Souvent, je ne sais pas comment m'y prendre. Parce que moi, dans ma tête, je suis assez logique. J'essaie de donner de l'amour, de l'attention et tout. Mais souvent, je suis trop occupé par le travail. Donc, je n'ai pas trop d'attention pour elle. Et c'est là où... ça peut faire des problèmes. Donc j'aimerais un petit peu comprendre, je me dis, est-ce que les femmes sont presque illogiques quand elles sont en relation et que voilà, sont des reines et que tout tourne autour d'elles. Mais sinon, des disputes de couple de temps en temps, c'est important pour dire souvent ce qu'on a sous le cœur, mais toujours dans le respect et dans la quête de la compréhension de l'autre. Et après, ça se résout très bien dans le lit conjugal, c'est toujours encore plus, plus excitant, plus intéressant, voilà.
Ah ouais, on y revient toujours, hein, la réconciliation sur l'oreiller.
Quel joli témoignage. Hein. C'est joli, j'adore. Oui. Et c'est très joli ce qu'il a dit. Mais il le dit lui-même, il dit, elle se met à bouder, elle dit, j'ai besoin que tu me cajoles, etc. Je crois que très souvent, les femmes, elles ont juste besoin qu'on les rassure, qu'on leur dit qu'on les aime, qu'on leur dit... Enfin, il y a beaucoup de fragilité qui s'exprime comme ça.
Il y a des femmes qui vont être exaspérées par vos propos, qui vont dire, mais on n'a pas besoin d'être infantilisées d'une certaine manière.
Oh, c'est pas infantilisant.
Non, mais
ça,
je veux bien la place de certaines...
C'est que... Non, mais là, il me parle d'une femme qui a tendance... Il a tendance à stigmatiser les femmes et la dispute.
Il décrit un peu une femme enfant, quand même. Hein, une femme capricieuse.
Une femme qui a peut-être des frustrations qu'elle a du mal à exprimer.
Mais c'est un jeu à deux. Hein, ouais. C'est-à-dire que lui aussi, même dans sa manière de le dire, c'est-à-dire en riant, et on entend, c'est une gamine. Lui-même la considère un peu comme ça. Lui-même s'amuse un peu de sa manière de lui dire, même quand j'ai raison, j'ai tort, et elle me reproche d'avoir raison d'une certaine manière. On sent bien qu'il se met lui-même aussi dans cette position un peu surplombante, un peu c'est une femme enfant. Et finalement, bon, tout ça se passe bien. Au lit et tout va bien. Hein,
c'est... Ouais. Mohamed dit la même chose, hein, il nous pose ce message de Nemout Samoudou aux Comores, il dit « Je me dispute tout le temps pour rien avec ma copine, elle me fait des reproches parce que je suis rentrée tard, parce que je refuse de faire ce qu'elle me dit. Ça peut venir d'une phrase dite sans réfléchir, poursuit Mohamed, mais malgré tout, je pense que la dispute, ça aide à savoir ce que l'autre désire vraiment, ça améliore notre relation et après une dispute, je discute, je me fais pardonner. Le pardon, nous dit Mohamed, c'est le seul remède de la réconciliation. Alors d'ailleurs, j'ai une question à poser à Jean-Jacques Mbassa, qui est toujours en ligne à Bamako. Est-ce que la réconciliation par la sexualité, d'une certaine manière, sur l'oreiller, beaucoup l'ont cité, ça. Est-ce que c'est le mode d'emploi de la réconciliation, selon vous?
Non, je voulais d'abord dire que quand les couples s'unissent, l'une de leurs principales tâches, c'est de savoir se réconcilier après une dispute. Ben, c'est pour ça que Guy Bedos disait, le vrai plaisir de la dispute, c'est la réconciliation. C'est dit. Certaines personnes ont tendance à croire que faire l'amour juste après une dispute, ça permettrait de résoudre le problème. Mais c'est tout à fait pas vrai, parce que c'est comme un alcoolique qui se réfugie derrière sa bouteille, pour ne pas faire face à la réalité, mais une fois les faits dissipés, la réalité est toujours là. C'est un vrai raccourci qu'en prennent ces personnes-là. Vouloir faire l'amour parce que l'on s'est discuté, comme le pensent certaines personnes, c'est illusoire. Ce n'est pas en fuyant les problèmes que l'on apprend à aller aux autres. En revanche, une fois qu'on s'est calmé, une fois qu'on a discuté et qu'on s'est réconcilié, une fois qu'on s'est compris, là, c'est celle pour aider à renforcer le sentiment d'amour et de sérénité.
Gabriel nous appelle au 33 1 84 22 71 71. Bonjour Gabriel.
Bonjour RFI, bonjour à tous les voisins et voisines.
Alors Gabriel, vous ne vous disputez jamais avec votre femme, on attend le mode d'emploi.
Oui, effectivement, je ne connais pas de dispute depuis mon enfance, puisque j'ai vécu dans une famille chrétienne où les papas ne se sont jamais chamaillés. On s'est demandé même, est-ce que papa et maman se disputent aussi? Donc, ça, on s'est demandé beaucoup. Et nous, de notre côté aussi, on a eu cet exemple-là. On essaie de tout arranger. Donc, notre secret, c'est le dialogue. Donc, et ce dialogue-là, ce n'est pas n'importe comment. C'est-à-dire, il ne faut jamais reprocher le conjoint ou la conjointe en présence des gens ou même des enfants. Et il ne faut même pas se gêner de demander pardon quand on se sent coupable d'un fait. Et il ne faut jamais oser parler du mal de l'autre à quelqu'un d'autre, au voisin. Je ne parle pas des voisins de la RFI. Les voisins qui nous entourent, bon, ainsi de suite.
C'est ça, ne pas prendre le voisinage à témoin pour éviter l'humiliation, y compris même devant les enfants. Merci pour ces conseils, Gabriel. Merci beaucoup de nous avoir appelés. Fabienne Kramer et Caroline Cruz, est-ce qu'on peut ajouter d'autres conseils pour éviter que la dispute dégénère? Parce que on l'a dit tout au long de l'émission, l'idée n'est pas de supprimer toute dispute, hein, toute discussion animée, mais en tout cas d'éviter qu'elle devienne autre chose qu'une simple dispute pour une broutille.
Mais le dernier témoignage que vous avez est extraordinaire pour les clés contre la dispute. Et en particulier, moi je me dis, interrogez-vous, je crois qu'on a tous les jours quelque chose à demander à notre conjoint et à lui demander pardon de quelque chose. Parce que, pardon, excuse-moi, je me suis servi avant toi. Pardon, excuse-moi, je suis passée dans la porte avant toi. Donc, si on apprend aussi à dire pardon, c'est-à-dire à réussir à s'excuser, on peut avoir une meilleure communication. Et tout à l'heure, je voulais juste rajouter un petit truc, c'est que peut-être qu'il faut écouter les femmes avant qu'elles se mettent en colère. C'est-à-dire que la négligence que certains hommes affichent en disant « Oh, elles sont toutes comme ça, hystériques et capricieuses », vient du fait que les femmes, elles passent des messages avant de se mettre en colère.
Caroline Cruz.
Non, moi, j'ai pas grand-chose à ajouter à ce que vient de dire Fabienne. Effectivement, arriver à ce que vous disiez tout à l'heure, Fabienne, à reconnaître l'autre dans ce qu'il est autre et dans son altérité, c'est-à-dire que si on vit avec quelqu'un, c'est pas pour vivre avec soi-même. Donc, qu'il y ait un désaccord, ça ne peut être qu'un enrichissement. Après, que fait-on de cet enrichissement ? Il me semble aussi, et ça, si on peut y arriver, éviter que la dispute ne dégénère. Mm-hmm. Et à ce moment-là, le couple peut se mettre d'accord, faire équipe pour se dire, à un certain moment, il y a un point de bascule qui va être franchi, on sent qu'il va être franchi, et là on part dans la toxicité de la dispute, parce que on est dans autre chose, on rejoue les disputes avec ses parents, et il faut trouver un moyen ensemble, un geste, un mot, une parole, pour se dire stop, on arrête, et quitte à reparler, comme vous le disiez après, de ce dont il s'agissait, pour vider le problème, la discussion.
Voir d'ailleurs, comme disait Fabienne Kramer, de retrouver une forme de bonne éducation que l'on perd avec la vie quotidienne et son conjoint, finalement.
Oui,
De travailler la forme. Si le fond est important dans le respect. Pas parler à sa femme comme on ne parlerait pas à son chien.
Et pas parler à son mari comme on ne parlerait pas à son chien. Pareil.
Donc, retrouver des mots simples, le dialogue. Est-ce qu'il y a un moment aussi où on sait que ce n'est pas le bon moment pour aborder telle discussion ? C'est le sens du timing.
Bien sûr, si on rentre épuisé du travail, si le patron a été extrêmement désagréable, si on a été coincé dans le métro pendant 3 heures, bon, c'est absolument il vaut mieux prévenir à ce moment-là son conjoint et ses enfants d'ailleurs, qu'on n'est pas du tout en état de s'entendre, faire des reproches. Et reconnaître ça chez l'autre aussi.
Oui. Enfin, et il faut qu'on parle des tyrans aussi. Ces gens qui arrivent justement du travail, qui ont une exaspération, qui sont super en colère. Et souvent, des familles vous disent « il est à peine rentré » ou « elle est à peine rentrée à la maison ». On sait que ça va péter, qu'il trouvera une bonne raison pour... Donc ça, de temps en temps, la dispute, elle sert à sortir sa propre hargne. Elle blesse les autres alors que l'idée, c'était juste d'évacuer. Alors, il faut aller courir, il faut aller faire autre chose, quoi.
Oui, il faut inventer. Là encore, je pense qu'un couple peut faire équipe aussi pour lutter contre ça. Inventer des sas. Savoir que cette évacuation du stress peut se faire dans un moment où... dans un sas, dans un moment de tranquillité. Chacun est de son côté. On n'est pas obligé d'être immédiatement l'un sur l'autre.
Eh bien, merci en tout cas à vous tous. Merci à Jean-Jacques Mbassa qui était en ligne de Bamako, qui est coach en développement personnel et qui a publié « Roméo et Juliette se disputent ». Merci à vous Caroline Cruz, conseillère conjugale et familiale. « Comment continuer à se parler, à s'aimer, à se désirer ?» C'est publié chez Marabout. Et Fabienne Kremer, psychanalyste, vous avez publié « 21 clés pour l'amour slow ». C'est édité chez PUF. Merci aussi à l'équipe, Sigrid Azerwal, Delphine de Dianous, Romain Dubrac, Didier Cherouz. Demain, 7 milliards de voisins, nous serons à Dakar pour une émission en public à l'Institut français à partir de 14h. Comment améliorer la vie des habitants dans les villes africaines grâce à des applications connectées? On en parlera notamment avec les finalistes du concours Challenge Up Afrique. Et vous avez la parole, surtout, appelez-nous dès maintenant pour participer à l'émission. Est-ce que le numérique peut vraiment améliorer les conditions de vie des habitants? 33 1 84 22 71 71. Contactez-nous aussi sur les réseaux sociaux. Tout à l'heure sur